Bienvenue dans ce 12e module et dernier module de notre workshop de migration d'entreprise consacré à Internet Explorer 9, notre dernier petit bébé qu'on va vous montrer, qu'on a bien bichonné et on est assez content des résultats. On va voir un petit peu quels sont les objectifs d'Internet Explorer 9. Un des principaux, c'est le support de ces nouveaux standards émergents HTML5 et CSS3, qui sont toujours en cours de fabrication, mais il y a pas mal de choses qui sont relativement secs quand même. Donc, on peut se permettre de commencer, nous, à les implémenter, et vous pouvez commencer à les utiliser en production de manière relativement sereine.
Tu veux que je te raconte un petit peu l'histoire de ces nouveaux standards?
Avec plaisir, je sais que tu la racontes très bien
Très
cette
bien.
histoire. Ouais. Okay, c'est, au début, il y avait des dinosaures.
Voilà. On va pas remonter jusqu'au dinosaure, on va pas remonter jusqu'à HTML 3.2, ça ferait peut-être un petit peu long. Hein. Peut-être dire qu'aujourd'hui déjà, les standards déjà sont définis par qui? Le W3C, et que le standard actuel au niveau de HTML, du langage de balisage, le markup, hein, c'est le 4.0. Pour tout ce qui est CSS, c'est-à-dire les cascading style sheet, donc en gros les feuilles de style sur les pages web, qui nous permettent en gros de changer l'apparence de la page web, mais ne pas changer son contenu en tant que tel. Aujourd'hui, le standard défini de facto, c'est le 2.1. IE8 supporte parfaitement et respecte parfaitement ces deux standards actuels, HTML 4.0.1, CSS 2.1. Malgré tout, aujourd'hui, on a quand même un gros buzz qui se fait et tout le monde parle d'HTML5. Je veux dire, Steve Jobs dit HTML5,
C'est de la balle.
c'est de la balle bébé. Et même chez nous, on commence également chez Microsoft à parler beaucoup d'HTML5. Donc HTML5, en gros, c'est une évolution des markups et des technologies. Donc une évolution du langage de balisage et puis une évolution également des feuilles de style. Et puis derrière, on ajoute également un ensemble de technologies qui ne sont pas forcément déjà toujours reliées en tant que telles au W3C ou autre.
Markup, ouais. Bon.
Voilà. Donc pour la petite idée, c'est que quand l'HTML4 a été plutôt bien finalisé, eh bien, les personnes du W3C se sont dit, oh, maintenant on va tout révolutionner, on va créer l'XHTML, on va plus avoir des fichiers en texte, entre guillemets, mais ce sera de l'XML, car c'était bien la mode à l'époque. On était dans les années, je peux dire, 98, quelque chose comme ça à peu près. Et donc, ils ont voulu commencer à créer l'Extended HTML, donc l'XHTML 1.0, qui était rétrocompatible avec l'HTML 4.0.1, donc il n'y avait pas vraiment de souci à ce moment-là. Et puis ils se sont dit, allez, on va continuer, on va faire l'XHTML 2.0, qui lui, cette fois-ci, n'était pas rétrocompatible avec le suivant, toujours avec de l'XML.
Mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave. Ouais. Parce que c'est là où on se dit qu'il y a eu peut-être une grossière erreur. Et le fait de vouloir imposer absolument aux développeurs web de faire du XML pour le développement a irrité certaines personnes chez des fabricants de navigateurs.
Et surtout de tout casser.
Bah oui, tout casser. La rétrocompatibilité, c'est une chose qu'en général, on n'aime pas, enfin, on aime assurer.
En tout cas, chez Microsoft, on connaît bien le sujet.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, des ingénieurs de chez Opera, avec à leur tête une personne qui s'appelle Ian Hixon, ont dit, bah, l'W3C, écoutez, ça ne nous va pas ce qu'ils sont en train de faire, de vouloir nous imposer l'XML. On va nous faire évoluer HTML, sans casser ce qui existe d'avant, ce qui existe déjà, mais simplement en rajoutant des fonctionnalités. Donc, ces personnes d'Opéra ont créé un groupe de travail qui s'appelle le WattVG. Et dans ce groupe de travail, en fait, rapidement, des personnes de la Fondation Mozilla et des personnes en fait d'Apple, les équipes WebKit pour être plus précis, sont venues les rejoindre, entre guillemets, pour créer finalement quelque part un groupe alternatif de développement d'HTML versus le W3C. Par la suite, en fait, Ian Hixon a changé de société et est passé chez Google et désormais travaille pour Google, mais fait toujours partie du WattVG qu'il dirige, qui est donc un groupe de travail avec lui comme éditeur, l'éditeur. Et puis il y a 8 personnes dans un comité en dessous, 8 personnes provenant de chez Apple, Mozilla ou encore Opera.
D'accord, donc si je résume, HTML5 vient en gros d'Opera et a été repris fortement par Google avec cette personne, Ian Hixon,
qui est fortement influente, effectivement. Donc on a ce groupe de travail qui est WattVG, mais je l'ai dit tout à l'heure, celui qui définit les standards du web, c'est le W3C. Le W3C, ils se sont aperçus au bout d'un moment quand même que l'XHTML2, c'était peut-être pas une très très bonne idée.
Ils faisaient une connerie, comme on dit dans le jargon.
Voilà, et qu'en gros, ils partaient dans le mur. Donc ils ont fait leur mea culpa, ils ont dit, ok, on a fait une erreur. Et donc à ce moment-là, le groupe de travail, le working group HTML, du marque de la balise, donc, à renaître ses cendres, tel le phénix, on pourrait dire.
Décidément.
Et décidément. Et donc, ils ont dit, OK, ben, on va réutiliser le travail qui a été fait depuis par le WattVG, et ça va nous servir de base pour créer, en fait, la nouvelle spécification qui est HTML5.
Donc, pour le coup, c'était plutôt malin. Oui. Après une connerie, ils ont enchaîné un truc.
Voilà. Donc, le WattVG, le W3C, c'est assez technocratique. Le groupe de travail de l'HTML est très très gros. Aujourd'hui, il fait 442 membres. Donc, ça fait quand même, donc, en gros, tous les éditeurs sont présents dans ce groupe de travail. On a peut-être un triumvirat qui se fait au niveau de ce qu'on appelle les chairman, donc, on va dire, les responsables de ce groupe de travail. Aujourd'hui, ils viennent de trois sociétés. Le premier, ça vient de chez Microsoft, c'est Paul Cotton. Mm-hmm. On a également Sam Ruby qui vient de chez IBM.
Tu vas nous citer le dernier qui vient de chez Apple.
Et la troisième personne qui vient de chez Apple, et je suis désolé s'il comprend le français et qu'il regarde ce webcast, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui est un nom des pays de l'Est. J'en suis fortement désolé. Voilà, donc triumvirat, IBM, Microsoft et Apple, qui sont donc les trois dirigeants de ce groupe de travail. Et en dessous, en fait, on retrouve 442 membres, dont environ 250 qui proviennent de différentes sociétés. Et là, on remarque que c'est globalement assez équilibré. On tourne entre 13 et 17... employés pour chacun des navigateurs, que ce soit la Fondation Mozilla, je crois qu'il y a 17 personnes, 16 de chez Microsoft, 15 de chez Google, etc. Donc en gros, tous les éditeurs sont très représentés là-dedans. Et globalement, les personnes qui travaillent dans le WattVG sont également des membres du W3C. Donc en gros, il n'y a pas vraiment une séparation des deux organisations. Dans les faits, en fait, le WattVG, on va dire, est peut-être vu comme une sorte de laboratoire d'innovation où ils vont tester, en gros, et essayer de faire évoluer des specs. Et ensuite, ils essaient de les réinjecter au sein de la vraie norme qui est, en fait, le W3C.
Vous avez vu, il raconte bien l'histoire, quand même. Ouais, alors, pourquoi il vous raconte cette histoire et qu'il vous saoule avec cette histoire de l'HTML5 pour vous expliquer, quand même, qu'on a une vitesse, du coup, qui est relativement lente de création et d'implémentation, même si ça s'est fortement accéléré ces derniers mois. En partie aussi parce qu'on a décidé enfin de s'y mettre avec IE9, mais que on a une évolution qui est à différents niveaux parce que ces différents acteurs doivent se mettre d'accord et qu'aujourd'hui on va voir certaines nouveautés qui sont utilisables en production sans danger. On va parler de balises vidéo, de canvas, ce genre de choses.
Et donc aujourd'hui, les spécifications d'HTML5, le document de travail des deux organisations, du WattVG ou du W3C aujourd'hui, sont à l'état de brouillon.
Pas terminés. Donc on espère qu'ils seront terminés cette année. Et ensuite, il y a tout un mécanisme de validation de ces spécifications, de création de jeux de tests unitaires, etc. Du coup, on pense que l'ensemble des specs sera terminé, validé, déployable d'ici 2022. Donc l'ensemble de HTML5 que vous pouvez le voir dans les specs, ce qui est loin.
Projection très négative, mais...
Mais qui est relativement pragmatique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas commencer à utiliser certaines de ces nouveautés avec plusieurs techniques de développement. Autre point sur lequel Microsoft était à la traîne avec Internet Explorer, c'était son moteur JavaScript. C'était pas forcément dramatique il y a quelques années, ça commence à poser plus de problèmes justement avec ses applications HTML5 parce qu'on fait un fort usage des librairies type jQuery ou d'une manière générale on fait bosser le navigateur avec le moteur JavaScript. IE8 était nettement meilleur que ses copains IE7, IE6, mais était carrément à la ramasse par rapport à ses concurrents que sont Firefox et Chrome. Aujourd'hui, notre moteur JavaScript est excellent. On le verra tout à l'heure sur les benchmarks. Et on est assez content de ce qu'on a fait. Dernière innovation qu'on a mis, je pense, les premiers. On n'arrive pas à savoir vraiment, mais je pense que c'est nous les premiers.
Windows, on est les premiers.
À utiliser le processeur, la carte graphique, pour soulager le GPU pour des tâches complexes que sont les animations, le décodage d'une vidéo. Tout ça, ça prend beaucoup de CPU. Les pages sont de plus en plus riches. Faisons poser ces superbes processeurs de chez Intel, Nvidia, ATI, qui sont blindés de cœurs d'exécution dédiés, et donc les faire bosser pour avoir des animations fluides.
En gros, on a de la puissance dans nos cartes graphiques. Cette puissance a jusqu'ici été sous-utilisée, à part peut-être pour les jeux vidéo. Et cette puissance, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de soulager le processeur qui classiquement, en fait, travaillait par cette puissance qui, en fait, en plus, est relativement faite pour traiter, en fait, du visuel, en gros, des transformations.
Pour faire des rotations, tout ça, c'est prévu, du scaling, du décodage, des animations. Il est super fort.
Tu parles super bien le codec.
Je parle super bien le codec, ouais. Alors, quoi de neuf avec Internet Explorer? Comme je vous l'ai dit, un support du HTML5 CSS3. On a fait nos courses en fonction de ce qu'on estimait stable et implémentable parce qu'on ne peut pas se permettre, nous, de faire une révision toutes les 6 semaines de notre navigateur. Sinon, en entreprise, je pense que ça va poser problème. Mais il y a déjà un très bon support de HTML5 en lui-même, c'est sûr. De CSS3, peut-être un peu moins, mais on implémente déjà pas mal de choses. Un moteur JavaScript clairement plus rapide. Une utilisation du GPU. Le SVG, on n'en a pas parlé souvent quand on parle de HTML5. On l'utilise également, on parle de CSS3 et de SVG, qui est un format vectoriel qui sera accéléré par le GPU. Il sera prévu que pour Windows Vista et Windows 7, pour deux raisons, une technique, c'est qu'il est basé sur Direct2D et DirectFly qui sont avec Windows 7 backporté sur Windows Vista. Une économique, on va dire, sur laquelle on a investi forcément plus trop sur Windows XP pour créer cette version où on a besoin du système dans les nouveautés pour les performances et en termes de sécurité. Alors là, je vois que tu fais une drôle de tête parce que sur cette slide, j'ai mis un ancien résultat au test ACID.
Tu peux nous parler un peu de ce test ACID et puis tu iras nous montrer
le nouveau résultat. Le test ACID est conçu par ce fameux Yann Hixon qui travaille aujourd'hui chez Google, qui à l'origine, je pense, partait plus ou moins d'une bonne volonté, c'est quand même pour faire du buzz marketing, de dire est-ce qu'on faisait un test automatique qui va tester le support de HTML5 auprès d'un navigateur. Il a pris 100 tests sur 6 catégories particulières, l'implémentation de telle partie de CSS3, de telle partie de SVG, et puis il va voir si le navigateur le supporte correctement, et si oui, il lui donne des points. Et donc plus il a de points, plus a priori il implémente de choses.
Donc quand tu es à 100%, ça veut dire que tu es un navigateur super respectueux des standards, c'est ce que j'ai bien compris?
Pas du tout, ça veut dire que tu supportes très bien ce qu'il a prévu de tester. Et donc si jamais tu veux faire croire aux gens que tu es un super navigateur HTML5 parce que tu as 100 au test ACID 3, eh ben, tu n'implémentes uniquement ce qu'il teste, c'est-à-dire 100 tests.
Et je veux dire, si je devais tester de manière unitaire HTML5, CSS3, il faudrait combien de tests? Parce que là, alors, 100, c'est déjà pas mal.
C'est difficile de l'estimer. Déjà, pour la version précédente qui était HTML4.01, CSS2.1, on est arrivé à peu près à 8200 tests unitaires. Donc c'est bien loin déjà des 100 tests du test ACID 3. Hein. Ouais. Pour HTML5, CSS3, SVG, c'est bien plus complexe que l'aspect précédent. On estime à au moins 60 000 tests unitaires pour tester chacune de ces fonctionnalités.
Alors d'accord. C'est quoi un test unitaire? Donc là, on est à 60 000 qui serait la réalité de l'ensemble des jeux de test.
On estime à peu près.
Une estimation.
Versus 100.
Versus 100. Ouais, effectivement. Donc le navigateur qui a 100, qui est très respectueux des standards, et très respectueux des 100 standards qui sont.
Oui. Ou des 100. Alors c'est un peu de mauvaise foi. Il se trouve que les navigateurs aujourd'hui qui sont à 100 sont aussi bons sur le support des standards. Ce que je veux dire, c'est que bachoter ce test-là n'a pas vraiment de raison d'être. C'est-à-dire que on pourrait avoir un support à 100 de IE9 et donc ne pas respecter les 59 900 tests restants et donc être nul finalement sur le support des standards. Donc ACID 3 était là pour faire, je pense, du buzz marketing et pousser un peu tout le monde sur le support. Aujourd'hui, donc ça c'était une ancienne version, on est à 95 sur 100, donc on peut se rendre sur le site. Pas forcément de Media Player, hein, mais
c'est gentil de voir
sur le site ie.microsoft.com/testdrive.
Très joli poisson clown de Palau.
Et là, vous avez la possibilité de voir notre résultat au test ACID, et donc on est à 95 sur 100. Alors pourquoi on n'est pas à 100? C'est la question que les gens nous posent.
En fait, on est le seul navigateur à ne pas être à 100.
Non,
en fait.
Il y a également Firefox qui a fait ce choix-là.
Ah non, tout à l'heure, on a dit dans le module précédent que Firefox était implémenté très bien.
J'aime bien
standards.
Que tu fais exprès de faire ton béné. Il se trouve que à l'époque où Yann Hixon a écrit ce jeu de test, il testait certaines parties des animations autour de SVG qui sont bien parties, alors c'est un peu technique, c'est une histoire, sont bien parties pour ne pas passer l'état de brouillon. C'est-à-dire que la personne qui a conçu ces spécifications a vu qu'il y a un truc qui est potentiellement mieux dans CSS3 pour faire également des animations. Et le mec qui a fait les specs, il s'est dit, autant laisser tomber mon truc qui est manifestement moins bien et bosser avec l'équipe de CSS3 et qu'on fusionne nos idées et que voilà, ce soit CSS3 qui gagne, entre guillemets, cette partie sur les animations.
D'où un petit peu finalement ce qu'on dit toujours, c'est que nous, dans IE9 en tout cas, on a fait des choix d'implémenter ce qu'on considérait, entre guillemets, le plus sec ou le moins changeant dans les spécifications qui sont de toute façon tout à l'état de brouillon aujourd'hui. Mais dire, ça, globalement, ça bouge plus trop, ça devrait pas être changé du jour au lendemain. Ce qui, visiblement, était le cas dans
celui-là, exemple. Typiquement, ouais. Ça veut dire qu'à terme, c'est bien parti pour que ça arrive, ça n'existera plus. Le test ACID 3 va tester des trucs qui n'existent plus dans la spécification du W3C. Donc, le fait d'être à 100, c'est supporter des trucs qui n'ont aucun intérêt. Donc, effectivement, c'est moins sexy auprès des journalistes de dire qu'on est à 95 sur 100 parce que c'est plus simple dans la tête des gens. 100 test ACID 3 égale bon HTML5. Firefox a fait les mêmes choix. Alors, c'est des stratégies qui sont difficiles à communiquer parce que forcément, dans les têtes des néophytes ou des gens qui sont peu compétents sur le domaine.
Peu au courant, tout simplement, en fait.
C'est plus simple de comprendre une autre entre 0 et 100, c'est sûr. Alors, toute une myriade d'autres tests qui sont, suites de tests qui sont arrivés, HTML5 tests, etc. Tout ça utilisent plus peu ou prou le même principe. C'est qu'ils testent des parties super spécifiques qui les intéressent de HTML5, voire même testent, on verra, le support des codecs sur la balise vidéo, sachant que le W3C aujourd'hui ne spécifie pas quel est le codec qu'il faut utiliser. Bah, donc c'est pas parce qu'on supporte tous les codecs qui existent sur la planète qu'on doit avoir une meilleure note, et pourtant ces tests augmente votre score si vous supportez le plus grand nombre de codecs. Tout ça pour dire que c'est compliqué d'implémenter HTML5 et que ça demandera du temps et que ces tests-là sont plutôt là pour faire du buzz plutôt qu'autre chose.
Et ça marche.
Ah oui, ça marche bien puisque de toute façon, tout le monde communique malgré tout là-dessus pour quand même justifier un minimum son état d'avancement.
Nous y compris.
Alors, justement, sur les benchmarks, un qu'on a particulièrement détesté pendant des années parce qu'on était le dernier, c'est le test SunSpider. Qu'est-ce que le test SunSpider? Le test SunSpider est fait par l'équipe WebKit pour soi-disant valider l'évolution de son moteur et les performances. Et en fait, il fait tourner en boucle des tests sur certaines parties de JavaScript. Donc, ils ont testé un sous-ensemble de moteurs JavaScript et ils lancent dessus des boucles. Et ça vous donne un temps en secondes pour exécuter l'ensemble des tests du test SunSpider.
Donc, plus c'est petit, meilleur t'es, c'est ça?
Voilà, plus le score est petit, meilleur tu es. Alors, IE7 était loin, donc ça c'est un diagramme qui date de notre PDC d'il y a plus d'un an. IE8, avait, je vous le dis, a nettement progressé par rapport à IE7. Par contre, on voit bien qu'un Firefox 3.5 de l'époque, un Chrome 3 ou un Safari 4 étaient nettement meilleurs que nous. IE9, à l'époque, était en train de rattraper son retard, donc était un petit peu derrière Firefox 3.6, Chrome 4. Mais déjà, on voit qu'il y a un delta monstrueux avec les autres versions et que déjà, à l'époque, ils étaient peu ou prou dans les mêmes domaines de catégorie de performance.
Et ici, on n'a pas mis par respect IE6, qui crèverait en fait la barre.
Voilà, IE6, où il nous faudrait un écran en 12 000 pixels verticaux pour l'avoir.
Ça marche pas parce que là, la vidéo est encodée.
Elle est encodée en 1024. Donc, c'est juste un souci technique d'encoding. Nous sommes désolés, mais sinon, on aurait pu le faire en Full HD. Alors, entre temps, ça a évolué. Non, c'est une mauvaise blague. Hein. Revue des performances de JavaScript sur une plateforme preview qui était plus récente. Donc, Microsoft a également changé dans son approche. Plutôt que de sortir une version de navigateur complète, on sort des plateformes preview à destination des développeurs ou des populations techniques pour qu'ils testent un peu notre moteur de rendu et JavaScript.
Donc, c'est pas un navigateur complet, une plateforme preview?
C'est pas un navigateur complet, ce n'est pas l'objectif. Et là, on voyait qu'on était passé déjà devant Firefox 3.6 et Lex 3.7 et qu'on était un petit peu à la traîne face aux références de l'époque, mais ça date d'un petit peu de temps, entre-temps ça a changé, qu'étaient Chrome, Safari et Opera. Opera longtemps a mené la danse sur le test SunSpider.
Opera sont très très bons sur SunSpider.
Et ils étaient très très bons, effectivement. On est arrivé ensuite sur notre première bêta d'IE9, qui est sortie le 15 septembre, où là on était quand même de plus en plus proche de la tête. Donc c'est un petit peu, je suis en train de commander un match sportif en fait.
Hein. Là un petit peu ce qu'il faut voir, c'est que l'échelle à côté est en train de se réduire. Là on voit ces 900 sur la verticale.
C'est à des millisecondes.
On parle de millisecondes.
On est sous la seconde, donc ça veut dire que finalement, entre un Safari 5 et un IE9, même si on est légèrement devant, l'être humain, il voit rien du tout sur ses sites web. Ça lui change rien du tout en termes de performance. Par contre, par rapport à un IE6, oui, il va le voir. Ça, il n'y a pas de souci.
Il y a des chances.
Pour terminer, on a sorti la plateforme Preview 7, qui était notre dernière plateforme Preview, donc après la bêta d'IE9. Et nous sommes passés premiers, c'est-à-dire que nous sommes devant Chrome, Opera, Firefox 4, qui a énormément progressé, je tiens à le souligner également, en optimisant son moteur JavaScript ces derniers temps. Bon, voilà, on est premier de ce test auquel on ne croit pas beaucoup, en fait, pour être honnête, dans le sens où il ne teste pas réellement ce que font les sites dans la vraie vie, on va dire. Ouais. C'est un benchmark qui teste en boucle des fonctions de JavaScript, donc des fois on l'utilise une fois tous les 6 semaines. Donc tester en boucle une fonction qu'on va tester une fois toutes les 6 semaines, si au lieu de prendre 3 millisecondes, elle en prend 20, c'est pas très grave, quoi.
Mais là encore, au même titre que le test ACID 3, c'est un test marketing qui est relativement bien connu par tous les journalistes et on va dire, je veux dire les néophytes, ce sont des personnes qui ne sont pas réellement intéressées au sujet mais qui ont survolé l'actualité. Globalement, effectivement, souvent quand un nouveau navigateur sort, quand il y a des tests de comparaison de navigateurs, et ben on leur passe le test ACID 3, le test WebKit, puis à la fin on fait un tableau en disant c'est lui le meilleur.
Quoi, ouais. Vas-y. Donc, de la même manière que les autres ne se manquaient pas de communiquer sur le fait qu'on était mauvais, ben on ne va pas manquer de communiquer sur le fait que nous sommes désormais premiers à un test qui est bien connu.
Nous étions premiers au 16 novembre 2010. Il n'y a pas eu depuis en fait de contre-test avec les autres versions des navigateurs. On est aujourd'hui en janvier 2010. La RC devra arriver. 2011, ouais. Pardon. La release candidate devra arriver. Je pense que d'ici la release candidate, on va probablement ressortir à nouveau les tableaux et se recomparer.
Et ensuite, j'ai envie de dire, peu importe. Ouais. Aujourd'hui, quel que soit le navigateur que vous allez choisir, vous aurez des excellentes performances en JavaScript.
On est en train de parler de différences ici qui se jouent sur des dizaines de millisecondes.
Alors, vous allez trouver d'autres benchmarks qui mettent plus en avant tel ou tel navigateur. C'est toujours facile de faire un benchmark qui vous met en avant. Il se trouve que le benchmark de Google, c'est Google les premiers leur benchmark. Le benchmark de Mozilla, c'est le premier à leur propre benchmark. Vous allez voir que nous, on a fait des benchmarks où on est premier à nos benchmarks. Ouais. C'est pratique. Alors, pour comprendre sur quelle partie on a bossé, en dehors de JavaScript, qui est souvent connu par les gens comme le truc qu'il faut optimiser, donc nous, on l'a fait au maximum qu'on pouvait faire, on est premier sur les tests SunSpider, il reste d'autres parties sur lesquelles il fallait bosser. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les équipes d'Internet Explorer, lorsqu'ils ont terminé Internet Explorer 8, se sont dit, bon, quels sont les modules sur lesquels on va devoir travailler, sachant qu'il y a plusieurs parties dans un navigateur, il y a le moteur de rendu, le moteur de layout, il y a le moteur d'exécution JavaScript, et ils ont envoyé 4 sites sous une moulinette de stress du navigateur et analyser quelles étaient les sous-parties qui bossaient. On voit à droite, en gris, que typiquement, ici, là, c'est plutôt le moteur JavaScript qui bosse, qui va consommer jusqu'à 30% du CPU de la machine. Pas mal de marshalling en bleu, ici.
Peut-être que je commente le marshalling.
On en reparlera de marshalling derrière. C'est un sujet favori de Stan. Et de l'autre côté, on voit plutôt que le moteur JavaScript est peu utilisé. Pas mal de zones violettes et oranges. Zone violette et orange, c'est le moteur de rendu et de mise en page. Pourquoi ça consomme énormément sur les sites, on va dire, modernes, qu'on appelle RIA, Rich Internet Application? Il y a des animations dans tous les sens, il y a de la transparence, il y a de la vidéo. Tout ça, c'est quand même fortement... ça sollicite énormément le CPU, d'où l'idée d'utiliser
prendre le GPU.
Le GPU. Entre deux parties de Call of Duty, on va utiliser le GPU pour autre chose. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de ce que je viens de vous montrer, fort du constat précédent, en dehors du moteur JavaScript, qu'est-ce que je dois faire pour optimiser globalement les performances de mon navigateur? C'est l'accélération matérielle. Donc vous avez dû entendre parler, depuis qu'on l'a sorti, tout le monde s'y est mis et communique là-dessus. On est les premiers à le sortir nativement sur la machine. Firefox nous a suivi et l'active désormais depuis la bêta 6 par défaut.
La bêta 6 de Firefox 4.
Et Chrome aujourd'hui là, mais ne l'active pas parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment sereins sur la stabilité de leur accélération matérielle. Donc ça a tendance à faire crasher pas mal la navigation.
Sachant que techniquement, en fait, autant Firefox s'appuie sous Windows sur les mêmes primitifs que nous.
Globalement,
tout ce qui est DirectX, DirectFlight, pardon. Et alors que Google, en fait, en reprenant le projet Angle, finalement, quelque part, essaie de faire un moteur d'accélération matérielle qui est relativement
plus
commun.
Haut niveau. Ils essaient de faire une couche d'abstraction finalement pour supporter les autres systèmes que seraient du Mac ou du Linux. Aujourd'hui, pour être honnête, il n'y a que sous Windows que l'accélération matérielle marche bien. Ils ont pas mal de difficultés à le faire fonctionner sur les plateformes Mac typiquement. Donc sur Windows, on s'appuie sur DirectWrite et Direct2D qui arrivent avec Windows 7, ce qui justifie aussi le fait que l'accélération matérielle complète, quel que soit le navigateur, vous l'aurez que sur du Windows 7.
Et du Vista, parce qu'en fait, la technologie, on l'a backportée, c'est-à-dire qu'on l'a entre guillemets dégradée pour la poser sur Windows Vista. Je sens que la différence entre un noyau Vista et un noyau Windows 7, finalement, elle est relativement faible.
Et légère. Donc la conformité au standard, bon, on voulait vous rappeler qu'IE 8, selon nous, a quand même marqué le coup. Hein. C'est la première fois que Microsoft a repris en main le navigateur et correctement. Il y avait un début d'implémentation de HTML5, c'était très léger. Hein. Il y a un lien que vous pouvez avoir sur la présentation. On souhaite s'engager de la même manière sur IE 9, de manière assez pragmatique et d'avancer rapidement, mais pas plus vite que la musique, pour pas vous en payer les pots cassés, comme peut-être vous l'avez fait avec IE 6. Et donc pas uniquement sur le test ACID 3, j'espère que vous aurez compris, et vraiment... un truc anecdotique pour tester le support de HTML5, mais complètement. Par ailleurs, bon, on avait annoncé qu'on rejoignait le groupe SVG pour désormais bien supporter ce SVG. Alors, beaucoup de blabla, voyons voir un
démo,
petit peu
démo, hein.
À quoi il ressemble. On l'a vu tout à l'heure déjà pour naviguer. Alors, si vous allez sur ce fameux ie.microsoft.com/testdrive, vous aurez en fait notre endroit où on met nos démos qui nous mettent pas mal en avant et on essaye aussi de mettre des démos qui utilisent les dernières techno à base de HTML5, CSS, 3 SVG qui stressent pas mal le navigateur pour montrer l'intérêt aussi de l'accélération matérielle. Toutes ces démos sont écrites par des éditeurs qui maîtrisent fortement le sujet, ils mettent pas mal de temps à les écrire, donc au niveau productivité c'est pas encore ça, mais on va voir déjà de très belles choses.
Peut-être préciser que la différence de certains acteurs qui font la promotion intensive d'HTML5, comme Apple par exemple, mais on n'a pas limité l'accès à ce site web à tel ou tel navigateur. Venez avec vos navigateurs préférés ou nos concurrents sur ce site-là, testez les démonstrations. Là-dessus, on n'a pas fait de verrouillage.
On va même plus loin, mon ami. C'est-à-dire que si jamais vous venez avec la dernière version de Chrome, par exemple, eh ben on le détecte.
Mais il faut prendre une version bêta et non pas une version finalisée.
Ah, bon. Ben, j'ai une version de dev. Mais jusqu'à présent, voilà, on l'a mis à jour, j'ai l'air malin. Mais la dernière fois qu'on allait sur le site, on vous disait, avant de tester Chrome sur nos démos, n'oubliez pas d'activer l'accélération matérielle qui n'est pas par défaut. On vous donnait la façon de le faire. Voilà. Donc, c'est quand même sympa pour comparer à nouveau ce qui est comparable.
Voilà. Bon, on ne pourrait pas les comparer typiquement, on ne pourrait pas les tester un IE versus un Safari sur le site d'Apple, parce qu'Apple l'a verrouillé typiquement Safari. De la même manière, en allant sur typiquement Chrome Experiment, qui sont des démos très orientées pour Chrome, bah, elles sont tellement orientées pour Chrome qu'elles refusent l'accès à d'autres navigateurs pour certaines démonstrations.
Donc nous, on est basé sur un HTML5 qu'on qualifie de standard, utilisable par tout le monde, donc tout le monde peut aller dessus. Alors, à quoi ça ressemble lorsque je veux mettre un petit peu à mal le navigateur? Je te propose de voir un premier truc à base de canvas. En fait, tout simplement...
C'est quoi les canvas?
Le canvas, c'est la possibilité de dessiner avec une balise dans une zone de dessin avec des API JavaScript, avec des primitives, des rectangles, des cercles, des courbes de Bézier, un petit peu comme on le faisait il y a longtemps, sous GDI. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont dit, mais c'est une occasion unique de enfin répondre à ce souhait qui arrive depuis des années sur le web.
On en parle depuis
Les gens nous demandaient la possibilité d'afficher des poissons dans un aquarium, mais dans une page web. J'imagine que toi-même, tu as longtemps rêvé de ce truc-là. On a répondu à votre besoin, soyez heureux, vous pouvez aller sur notre test et afficher ces poissons-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on utilise cette fameuse balise Canvas pour afficher et mettre en musique ces poissons. Bien sûr, plus je vais mettre de poissons, plus déjà ça va être le bordel dans mon aquarium, mais plus je vais potentiellement solliciter mon CPU qui normalement s'occupe de rafraîchir les éléments graphiques. Là, comme j'ai l'accélération matérielle qui est activée par défaut avec IE9, je peux mettre un maximum de poissons. Je suis à 500 poissons, je suis toujours à 60 images secondes. Je suis à 1000 poissons, je commence à descendre dans les 52 images secondes. Bon, je teste pas la dernière version de notre moteur qui est un peu plus rapide. On va la tester tout à l'heure. Toujours pour vous dire qu'on est à presque 60 images secondes avec 1000 éléments activés.
D'accord. Donc là, on est peut-être précisé qu'on est vraiment sur une démonstration et que les ingénieurs qui ont fait ce test, vas-y, tu peux le redémarrer sur notre navigateur, ne s'y connaissent absolument pas en aquariophilie.
Ah oui, on l'a remarqué, effectivement.
Et en fait, pour deux
raisons. Quelles raisons?
Alors, pour en fait deux raisons. Si tu me remets sur l'aquarium, je vais t'expliquer ces deux raisons. La première ici, c'est que le fond de cet aquarium, c'est du corail. D'accord. Donc c'est un aquarium qui est un aquarium marin. Or, en fait, les poissons que tu vois ici sont des poissons d'eau douce, que tu retrouves notamment dans la région du Siam.
T'es un grand malade.
Je suis un grand malade. Et ces poissons, en fait, s'appellent en fait des bêta splendides ou des combattants du Siam. Et en Thaïlande, notamment, ou dans certains pays asiatiques, en fait, ces poissons en fait sont utilisés dans des combats interpoissons. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu prends deux poissons de cette espèce, deux mâles, face à face dans un même espace, il y a un combat, il y en a un qui meurt. Donc ouais. Imagine avec 1000 poissons, c'est juste, pas une boucherie, mais plutôt une poissonnerie.
Une poissonnerie. Donc déjà, voyons un petit peu en dehors de cette anecdote très intéressante sur l'aquariophilie. Je suis à donc 10 petits poissons, 20 poissons, on va passer à 100 poissons. Là, on voit une chute importante du frame rate,
du nombre d'images. Chute du cours du poisson.
Ouais, du nombre d'images par seconde. Et si j'augmente à 250 ou 500, j'ai mon petit Cori 5 de ma machine qui commence à fumer. Là, vous voyez pas, mais ça fume. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas activé l'accélération matérielle ici. Donc tout à l'heure, on avait dit...
Est-ce que tu vas nous l'activer ?
Comparons ce qui est comparable. Donc je vais vous l'activer. Faut aller dans About Flags.
Non, c'est Flags, pas Flags.
Ouais. Je vous montre ce qu'il ne faut pas taper. Donc ne tapez pas Flags. Il faut taper Flags. Et là, vous avez la possibilité d'activer l'accélération Canvas. Donc c'est ce que je fais. Il vous dit qu'il faut redémarrer. Donc c'est ce que je fais également. Finalement, il n'y a pas que chez nous qu'il faut redémarrer. Ensuite, je vais relancer ce fameux poisson. Et vous allez voir que ce coup-ci, je monte à 500. On a un frame rate qui est nettement meilleur. Je peux aller jusqu'à 1000. Et nous, là où on était tout à l'heure à 50 images secondes, là, on est descendu dans les 30. C'est-à-dire qu'ils sont un peu moins bons que nous. Mais globalement, on voit l'intérêt de l'accélération matérielle même chez eux.
Tout à fait.
Firefox a le même niveau de performance globalement. à très bon niveau de performance. On est les meilleurs sur nos poissons, comme je vous le disais, sur les benchmarks, sur nos poissons, on est meilleurs. Alors, je vous propose de plutôt comparer ce qui est comparable en prenant la dernière version de notre moteur technologique.
Celle qui date du...
Novembre de l'année dernière, 2010.
La Technical... Le
Technical Preview 7. Donc, comme le disait Stanislas, n'est pas un navigateur en tant que tel, c'est un moteur technologique, donc vous n'avez pas la barre de navigation, vous n'avez pas le moteur de sécurité qui est plugué.
À noter, c'est qu'on peut les installer par contre là en side by side.
Alors là, vous pouvez l'installer, même si vous avez un IE8, vous ne désinstallez pas l'IE8, il vit à côté.
Oui.
Et donc, on a supporté de nouvelles choses avec ce navigateur. Je vous propose de le voir, une nouvelle démo qui utilise à nouveau la balise Canvas et je vais le couper d'ailleurs, la balise audio au niveau MP3. Et donc, ça se propose de faire une espèce de moteur 3D, en fait, comme on peut accéder au niveau du pixel, finalement, dans la Basic Canvas, dessiner avec cet ensemble-là et avoir un pseudo-moteur 3D. Donc là, on voit, en fait, le nombre d'images par seconde qui est de 52-53, et puis une espèce de score pour faire un pseudo-benchmark. Donc là, on a 53 images secondes sur cette plateforme preview avec une fluidité qui est quand même assez sympathique. Donc, comparons. Alors, j'ai installé la dernière version bêta de Firefox, qui devrait bientôt être la version 9, mais là, on a la version 8.
Tu peux nous le montrer ? On va être complètement
transparent. Donc, voilà, on est à la bêta 8 de Firefox aujourd'hui, le 11 janvier 2011. Donc, on va relancer la même démonstration. Par défaut, l'accélération matérielle est activée sur cette bêta de Firefox. Et on va voir ce que ça donne de leur côté. Alors, la balise audio n'est pas supportée en MP3. Enfin, le codec audio n'est pas le même. Donc déjà, ils n'ont pas à lire l'audio, normalement. Par contre, on voit là la fluidité qui est quand même nettement inférieure. Vous n'avez pas besoin de voir forcément le score en images par seconde.
On a bien le temps de voir l'étoile de la mort, là.
On a le temps de voir, par contre, les étoiles et les planètes qui tournent. Tout simplement, aujourd'hui, leur niveau d'accélération matérielle est manifestement inférieur au nôtre. Alors, on pourrait dire que c'est sur cette démo spécifique, mais globalement, heureusement, on a mieux bossé qu'eux aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, il n'a même pas le temps d'afficher le nombre d'images par seconde, tout simplement, parce qu'il faut qu'il fasse une révolution complète autour de la planète.
Voilà.
Donc, je ne vais pas m'apesantir tellement plus longtemps sur le sujet. On a fait pas mal de démonstrations d'Internet Explorer 9. Si vous suivez nos événements type Tech Days ou Microsoft Days, vous pouvez venir nous voir. On fera d'autres démos de ce type-là. Sachez que, du coup, on reprend pas mal la main en termes de performance et que les autres, maintenant, sont en train un peu de courir derrière nous sur certains sujets. Ils restent devant sur d'autres. Globalement, cette génération de navigateurs est particulièrement intéressante parce que tout le monde fait un excellent boulot. Voilà. Et c'est plutôt plaisant. Donc, la synthèse de tous ces modules, c'est si vous pouvez homogénéiser avec la même version d'Internet Explorer, ce qui vous permettra que vous soyez sous XP, Vista ou Windows 7, de qualifier vos applications en gros une fois qu'elles vont tourner partout.
Je devrais dire, en étant volontairement un peu provocateur, parce qu'on sait derrière le travail que ça implique de se mettre à jour, c'est laisser abandonner IE6 et laisser-le aux collectionneurs. On le sait, c'est volontairement provocateur, mais clairement, il y a 10 ans d'écart entre les dernières générations de navigateurs, 10 ans d'écart en termes de performance, 10 ans d'écart en termes de respect des standards, 10 ans d'écart en termes de sécurité, et que globalement, ça peut se justifier complètement aujourd'hui de migrer vers IE8. Simplement, entre autres, parce que cette migration vers IE8, elle peut soit accompagner, soit préparer, entre guillemets, une migration vers Windows 7, car Windows 7 est nativement fourni avec IE8.
Effectivement, rendez vos applications compatibles en utilisant la possibilité de basculer sur l'un ou l'autre des moteurs de rendu. Vous avez vu qu'IE9 va se focaliser sur les performances, globalement, et le support des nouveaux standards, qui peut-être un peu plus anecdotique dans le monde de l'entreprise où aujourd'hui l'outillage étant limité sur HTML5 et le niveau de finalisation des spécifications étant, à mon avis, un peu trop léger encore pour le monde de l'entreprise, c'est à vous de vous faire votre idée, ça peut peut-être moins vous intéresser, par contre les performances vont vous intéresser, et justement, tous les projets de migration qui sont en cours ou que vous allez peut-être démarrer pour IE8, c'est se préparer finalement à IE9. Pour quelle raison? Le moteur de rendu, de toute façon, d'IE8 sera intégré au cas où, mais de toute façon, on va toujours vers plus de support des standards. Les problèmes que vous aurez résolus entre IE6 et IE8, vous devrez avoir aucun souci pour passer sur IE9. Peut-être certains ActiveX récalcitrants, donc ça sera à étudier.
Et encore, je doute.
Mais aujourd'hui, IE9 est la cerise sur le gâteau que vous aurez lorsque vous aurez fini votre projet sur IE8. Plus tard, vous pourrez déployer facilement IE9.
Tout à fait, sachant qu'on fournira comme on a fait depuis IE4.
Un IEAK et IE9 aura également un DGPO et tout ce qui va bien pour un navigateur en entreprise.
Voilà, donc se préparer IE8, c'est se préparer IE9. Dans tous les cas, IE9, vous profiterez de l'accélération au niveau JavaScript, etc. La question qu'on nous pose souvent, et on terminera par ça, c'est avant les ressources utiles, c'est mais si j'installe un IE8 aujourd'hui et que je le mets en mode compatibilité IE6, est-ce que je vais profiter des améliorations en termes de moteur JavaScript, etc. Bah, la réponse est clairement oui. Donc déjà, entre un IE8 et un IE6, c'est vers l'infini et l'au-delà en termes de performance par rapport à IE6 en tout cas.
Et pareil pour IE9, le jour où vous déplorez IE9, c'est pas parce que vous demandez de basculer sur le moteur de rendu d'IE8 que vous perdrez les performances JavaScript. Alors, le meilleur blog qui existe actuellement, enfin que nous on a trouvé au sujet d'Internet Explorer en France, c'est le nôtre, en fait, en toute modestie.
C'est bien fait quand même, c'est quand même bien fait.
C'est une de nos grandes qualités, c'est la modestie. Ouais. N'hésitez pas à vous y rendre, blogs.msdn.com/IEFrance.
Voilà, vous pouvez nous contacter via ce blog, vous pouvez nous remonter vos feedbacks, globalement. Si vous avez voulu partager votre expérience, n'hésitez pas, on est toujours preneurs, parce qu'au final, on le fera partager au plus grand nombre.
Puis on peut toujours apprendre, on a plein de sujets où on peut apprendre. Et vous trouvez pas mal de ressources sur la compatibilité, les projets de migration sur ce blog, et les dernières nouveautés sur IE9, on les publiera au fur et à mesure sur ce blog.
Tout à fait.
Merci de nous avoir supporté, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont supporté les 12 modules d'affilée.
Voilà, soit environ quasiment 5 heures de vidéo.
Si vous faites partie de ces gens-là, je serais intéressé que vous nous contactiez quand même, on va vous trouver un goodie, je pense. À bientôt pour la suite sur IE9 et au-delà sur notre blog. Merci à tous.
Au revoir.